FM 93. La radio du sport à Québec. Entrevues, analyses, faits marquants. Le monde du sport passé en revue. Voici l'avant-match avec Dan Pou. L'avant-match, c'est la référence sportive à Québec.
Les équipes s'étaient déplacées pour le voir courir, pour le voir forcer, pour le voir bloquer. Mathieu Betts était au centre des projecteurs aujourd'hui au PEPS.
Je suis super content de mes résultats. Je venais ici avec l'idée de réussir les tests, que je réussissais en préparation durant mes séances d'entraînement. Que je ne sais pas si on peut dire que je me suis amélioré ou j'ai nuit à mon sort. C'est certain qu'à mes yeux, à moi, je suis satisfait de la performance.
Vous écoutez l'avant-match au FM 93 avec Dan Pou.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 2057. J'espère que vous allez bien. Mathieu Betts se questionnait dans l'extrait que Will vient de vous présenter, à savoir si il avait nuit ou aidé ses chances d'atteindre la NFL. Évidemment, je suis pas l'expert NFL, loin de là. Mais quand je parlais avec Will hors des ondes tantôt, il me disait que Mathieu Betts avait impressionné les recruteurs présents aujourd'hui au PEPS. Dans le niveau de stress d'un athlète, sachez qu'aujourd'hui, c'est une journée importante pour Mathieu Betts. Et vers 18h30, Will, mon collègue, qui était sur place, va nous faire entendre des extraits des différents intervenants du monde du sport et va nous raconter sa journée aujourd'hui. C'est pas tous les jours qu'un joueur du Rouge et Or peut impressionner les recruteurs de la NFL. Et c'est ce que Mathieu Betts et Samuel Thomassin ont tenté de faire aujourd'hui au PEPS de l'Université Laval. Je pense sincèrement que l'exploit du week-end revient au jeune joueur de tennis de Québec, Félix Auger-Aliassim, qui a vaincu le 10e joueur mondial, Stefanos Tsitsipas, en deux manches de 6-4 et 6-2. Deux manches. Évidemment, dans les tournois majeurs de tennis, c'est des 3-5. Dans ce tournoi-là, c'est un 2-3. On aurait pensé que si Aliassim venait qu'à l'emporter, ça allait être 7-6, 7-5. Ben non, 6-4, 6-2. Je connais le système de pointage au tennis. J'ai déjà joué moi-même au tennis. Mais je vais demander à un expert de nous jaser de Félix Auger-Aliassim plus tard dans l'émission. Très fier ce soir de vous annoncer la date de mon pôle des séries. Pour une 15e année consécutive, on va participer à un pôle, les auditeurs, tout le monde ensemble. La foule est déjà en délire à l'approche de ce pool des séries, et ce, malgré l'absence potentielle du Canadien en série. Ça ajoute à l'intrigue, ça nous fait suivre. Ah oui, j'ai... OK, ouais. OK, je m'excuse, je comprends. La foule est fâchée parce que j'ai parlé d'une absence potentielle du Canadien en série, alors qu'elle est... Encore. Les partisans du Canadien y croient encore à une participation en série. Et c'est bien plus le fun quand le Canadien est là, sincèrement. Mais on le sait pas pour l'instant. Il reste 13 matchs. On va parler dans 2-3 minutes avec Louis-Jean, qui est animateur à TVA Sports. Il reste 13 matchs au Canadien. Mais je vous annonce que le pool des séries, ce sera au Saint-Hubert du boulevard Laurier, lundi le 8 avril. Et si vous vous demandez si ça fonctionne, le pool de hockey que j'organise, si vous vous demandez si c'est populaire, je veux juste vous dire que j'ai eu un texto de la gestionnaire du restaurant ce matin. Elle m'a dit, là, Dan, on a un problème. Tu m'as pas annoncé la date encore, puis j'ai déjà des appels. Ah, OK, je comprends. Ça veut dire que les gens ont hâte de faire le pool des séries. Lundi, le 8 avril, 650-1234 pour réserver votre place. On va être autour de 400, comme on l'est à chaque fois que j'organise un pool. 650-1234 pour réserver votre place. Le chum et collègue Will, en fin de semaine, a attiré mon attention sur un rendement de fin de saison plutôt catastrophique pour l'entraîneur-chef Claude Julien. Et ça, sincèrement, c'est révélateur. Vous vous souvenez, à une certaine époque, je me souviens même pas de l'année, Claude Julien avait été congédié de mémoire un samedi matin de son poste d'entraîneur-chef des Devils du New Jersey. Je pense qu'il restait 4 matchs à la saison. Et en fouillant un peu, on s'était rendu compte que Martin Brodeur et les vétérans des Devils à l'époque n'avaient pas trop pris la défense de Claude Julien quand Lou Lamoriello avait dit « Hey les gars, il se passe quoi avec notre coach là? » Finalement, on l'avait congédié. Claude Julien, dans les 5 dernières saisons, voulez-vous savoir son rendement à la pause du match des Étoiles et le rendement final à la fin de la saison? Parfait. On commence en 2015. Il est entraîneur à Boston. À la pause du match des Étoiles, son équipe est 7e. À la fin de la saison, il est 9e. Boston 2016, 6e au match des Étoiles, 9e à la fin. Boston 2017, 8e au match des Étoiles, congédié avant la fin de la saison. L'an dernier à Montréal, 13e au match des Étoiles, 14e à la fin. Celle-là, c'est peut-être la moins révélatrice des 5. 13e ou 14e, quand même, tu serais 15e puis 12e. Finalement, ça a mal été toute l'année. Et cette année, pause du match des Étoiles, 4e dans l'Est, 9e en date de ce matin, avec 13 matchs à jouer. Claude Julien, l'entraîneur-chef, et ce sera une de mes questions à Louis-Jean dans les prochains instants, a une pression d'amener cette équipe-là en série. Marc Bergevin a dit à la date limite, j'en fais pas de changement. À part Chaput contre Wheel, ça va être le même noyau qui va être à Montréal d'ici la fin de la saison. Donc le pari de Marc Bergevin, c'est que son équipe est assez bonne pour participer aux séries. Maintenant, il faut que l'entraîneur-chef la fasse fonctionner.
L'avant-match.
Dans l'avant-match,
voici
Louis-Jean.
Et les Ducks en marquent un gros.
C'est sûr là, qu'on est dans une bagarre là, pour les séries, puis tu aurais voulu voir mieux de ton équipe. Ce soir, on s'est creusé un trou en partant. Là, on a...
Salut Louis, comment vas-tu?
Ça va très bien, bon lundi.
Oui, bon lundi à toi. Est-ce que tu penses que si on donnait un mulligan à Claude Julien, ce serait Price contre San Jose et Niemi contre Anaheim?
Monday morning quarterback, c'est ça qu'on appelle ça.
Ben oui.
C'est tellement le sujet de discussion. Puis moi, c'est drôle, quand j'ai vu ça, je comprenais parfaitement la logique.
Moi aussi. Après,
quand tu regardes les résultats,
mais je suis d'accord avec toi.
Ça leur a sauté dans la face.
Oui, mais je suis d'accord avec toi. Jeudi, quand... Claude Julien a annoncé ça, c'est exactement ce que j'ai dit en ondes dans l'émission du retour. J'ai dit, on sait pas ce qui va arriver dans ces deux matchs-là, mais lui il s'est dit, à partir du moment où je décide, ou pas je décide, à partir du moment où Price peut pas garder les deux matchs en deux soirs, puis il faut absolument que je mette Niemi, je mets une miette Niemi contre San Jose, puis Price contre Anaheim, comme ça, ben je perdrai pas 3-2 à San Jose avec Price, puis 3-2 à Anaheim avec Niemi. Finalement, ça a pas été ça,
puis mais la logique.
Oui.
Écoute, comme je dis, c'est facile de venir analyser
non.
et de critiquer. Mais la réalité, c'est que moi, je me disais, OK, le message, essentiellement, puis j'étais en relâche la semaine passée, tout ça, mais je suivais évidemment ce qui se passait quand même, et je regardais, j'en parlais avec des amis. Puis, tu sais, dans le fond, le message est simple. On pense qu'on a des meilleures chances de gagner en Anaheim que contre San Jose. Alors,
c'est
on
ça.
Est prêt à se dire, OK, dans le voyage, là, voici comment ça va se passer. On devrait battre cette équipe-là. On les 15, on doit gagner ce match-là. Contre les Sharks de San Jose, c'est le match le plus difficile. On met notre gardien de but, on met notre joueur le plus important devant le filet pour les matchs les plus prenables. Ça envoie un drôle de message.
Oui.
Ça envoie un drôle de message d'une certaine façon à ton équipe. Le problème, c'est que on dirait que les joueurs contre les Sharks de San Jose ont très, très bien fait. Malheureusement, tu as deux mauvais buts de la part de Niemi et ça leur a coupé les jambes essentiellement. Puis dans la game contre Anaheim, l'équipe n'était pas là. Price n'était pas là. C'était difficile pour tout le monde.
Oui.
Et ça a donné le résultat qu'on connaît. Tu rentres d'un voyage que tu devais aller chercher au moins 4 à 5 points sur 6. Tu reviens avec 2. Et là, tu te retrouves où aujourd'hui?
9e.
Exclu des séries.
Oui, OK. 9e. Partons d'aujourd'hui maintenant. On se dirige vers le 6 avril, le dernier soir de la saison contre les Leafs de Toronto. Il reste 13 matchs. Tu sais comment j'aime, tu sais à quel point j'aime les statistiques. J'ai fait une petite règle de 3. Si le Canadien fait 6, 6 et 1, ça lui donne 13 points. 79 plus 13, ça donne 92. Ce serait donc insuffisant pour participer aux séries. À partir de maintenant, il y a des matchs accessibles cette semaine et la semaine prochaine. Les 5 derniers matchs, par contre, sont beaucoup plus difficiles pour le Canadien. À partir de maintenant,
ouais.
Est-ce que tu dirais que, tu sais, on a parlé beaucoup de l'importance, de la surimportance de Carey Price envers cette équipe-là. À la date limite, Bergevin a dit non, moi j'aime mon groupe de joueurs, puis je prends le pari qu'on va faire les séries avec eux. Parfait, je veux pas nuire au développement, puis je veux pas sacrifier de l'avenir. Bon, c'est beau. Tu sais ce que j'en pense, j'étais pas d'accord le 25 février dernier, mais il faut vivre avec.
Ouais.
Est-ce qu'à partir de maintenant, tu dirais que la pression de cette équipe-là pour participer aux séries repose maintenant sur Claude Julien?
C'est drôle, hein, parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un justement ici à TVA aujourd'hui. On n'a pas le nommer avec Pierre Bruno. Puis lui, il me disait, il se posait la question, est-ce que le poste de l'entraîneur-chef est en danger si l'équipe ne fait pas les séries?
Non.
Et je lui ai répondu non, je ne crois pas. Non. Je crois véritablement pas que ce soit le cas. Mais oui, il y a de la pression sur Claude Julien. Moi, je te dirais que la pression est encore plus forte, probablement, sur le directeur général, et je m'explique. C'est lui qui a pris le pari, qu'on n'avait pas besoin de remplacer Niemi, ou on n'aimait pas ce qu'il y avait sur le marché. On jugeait que ce qui était disponible était moins bon que soigner Niemi ou ce qu'on a dans la Ligue américaine. Parfait. Mais ça démontre aussi exactement ce qu'on a discuté lorsqu'on s'est parlé au milieu du mois d'août cette année et tout au long de la saison sur l'équipe actuelle. Est-ce que c'est une grande équipe? Non. Est-ce qu'il y a un manque de profondeur? Oui. Est-ce que ça donne ce qu'on donne actuellement à une équipe qui te fait rêver par moment? Et là, finalement, quand ça commence à compter le plus, quand tu as le plus besoin de tes stars ou tes joueurs d'impact et qu'ils fassent la différence, et c'est là que tu vois vraiment la différence. C'est là que tu vois le coup de tirage qui lui réussit à se lever. C'est là que tu vois la profondeur des autres équipes. Si hier, contre les Jets de Winnipeg, c'est pas Backstrom qui produit ou c'est pas Ovechkin, c'est d'autres joueurs qui vont marquer des buts importants. C'est là où on voit l'importance d'avoir de la profondeur, l'importance d'avoir une équipe qui est bien bâtie et qui est complète. Et c'est là-dessus qu'on travaille chez le Canadien de Montréal. Et c'est vraiment, pour moi, la plus grosse carence. Alors oui, il y a de la pression sur le coach. C'est sûr, je veux dire, l'équipe, presque toute l'année, était 10 ou 11e au classement général dans la Ligue nationale de hockey. Et là, soudainement, quand ça compte le plus, elle se retrouve au 15e. Ça commence à glisser, ça commence à être plus difficile. T'es dans une division extrêmement compétitive et tout ça. Ça fait en sorte que oui, il y a de la pression sur le coach ultimement. Mais moi, je pense que quand on regarde ce club-là, on se dit, bon, ben les carences qu'on voyait sont véritablement là. Alors, la pression va être sur, peu importe ce qui arrive, que tu fasses les séries ou non, sur le grand patron d'apporter des correctifs, que ce soit le 1er juillet, de faire des transactions pour pouvoir corriger ça. Parce que si tu as décidé que tu ne faisais pas une reconstruction totale et complète, tu voulais bâtir avec les éléments que tu as là, ça veut dire que là, tu le vois, là, t'es pas assez bon, t'as pas assez de profondeur, puis t'as pas rien qui s'en vient de la Ligue américaine. Alors, tu vas faire quoi?
Mais tu sais, quand on a... Ouais, c'est ça, c'est une bonne question. Tu vas faire quoi? Tu sais, quand on a parlé de reset dans l'organisation du Canadien, parce qu'on voulait pas utiliser le mot reconstruction,
ouais.
On a dit, on va regarder en avant, puis là, on a sorti toutes sortes de théories qu'il fallait s'inspirer des équipes comme Chicago, puis Toronto, puis Pittsburgh, qui ont eu de très bons choix au repêchage, puis en s'inspirant de ces équipes-là, un jour, on va bâtir une équipe gagnante. Je m'excuse, Louis, mais si le Canadien joue à la hauteur de son talent d'ici la fin, bien, soit qu'il va rentrer en série comme 8e dans l'Est, soit qu'il va finir 9e. Je vois pas comment il peut descendre plus bas que ça. Bien, 9e, ça donne pas un super choix de repêchage, là.
Non, non. Et c'est ça le problème. C'est que si tu n'entres pas, tu vas dire, ah ben là, ben c'est quoi la différence entre cette année finir 9e? Puis là, on était dans le coup, au moins on était compétitif. Je parle aux yeux des partisans. Je pense pas que c'est la même chose. On porte pas le même regard si on est Jeff Molson ou si on est Marc Bergevin, si on est la direction de cette organisation-là. Mais pour les partisans, tu te dis, bon ben, écoute, l'année passée, on n'a pas fait les séries, mais on a eu Kotkaniemi, on a eu le 3e choix. Cette année, on est 9e, on n'a rien. On a zéro, tu sais, on a un choix qui va ultimement...
15e, oui.
C'est pas un super bon choix, hein, exactement.
Ouais.
C'est pas un grand choix au repêchage. Alors, ça nous fait presque mal. Et ultimement, ça revient à l'œuf ou la poule, l'œuf, tu sais, ça revient à la fameuse discussion dont on vient d'avoir. C'est quoi pour améliorer une équipe si tu décides que tu veux pas... Tu sais, tu donnais l'exemple des Blackhawks de Chicago, les Penguins de Pittsburgh. Je veux dire, la différence avec ces équipes-là, c'est que t'as des joueurs qui sont les joueurs... Tu sais, Crosby, Malkin, t'as eu Fleury, t'as eu Jordan Staal, écoute, Christopher Letang, t'as eu tellement de bons joueurs parce que t'étais mauvais, parce que t'avais perdu.
Mais pas le temps. Le temps, c'est un choix de 3e ronde. Tu peux pas le mettre dans l'équation.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais peu importe. Tu as quand même été capable de bâtir, t'as quand même été capable d'avoir créé une culture avec tes joueurs qui fait en sorte que t'as monté, t'as bâti quelque chose de vraiment spécial, ce que le Canadien n'est pas prêt à faire.
Exact.
Est-ce que c'est une saison perdue?
Oui, pour moi, il n'y a aucun doute.
Parce qu'au jeu de l'organisation, ils vont dire non. Ils vont dire, on voulait faire les séries, on est déçus, on pense qu'on est en train de bâtir avec les jeunes et tout ça. Je pense que c'est pas quelque chose... Je pense qu'à quoi je suis convaincu, c'est pas ce que les partisans veulent entendre.
Mais non.
Les partisans veulent seule chose. C'est si tu y vas, tu y vas pour le gros trophée à chaque année. Mais la réalité, moi, je reviens à ce que mes attentes en début de saison. Je me disais, ça va être difficile. ça va être extrêmement difficile pour ce club-là de faire les séries. Peut-être qu'ils vont le faire. Et c'est encore un peu entre leurs mains. Le problème, c'est qu'au cours du voyage, avant de partir pour l'Ouest américain, c'était vraiment encore entre leurs mains. S'ils gagnaient, puis s'occupaient de gagner leur match, ils étaient encore là. Et là, ils ont échappé des gros matchs. Et ça fait que soudainement, ils vont avoir besoin d'aide. Et c'est là où ça devient très dangereux. Puis tu as parlé du calendrier. 13 matchs à faire. Il y en a 5 des 7 prochains qui seront à domicile. J'ai l'impression que si on poursuit la tendance de cette saison, on va en gagner une bonne partie de ces matchs-là. Mais là, après ça, on va sur la route. Puis on finit avec les 5 derniers, c'est des matchs calendriers qui vont être extrêmement éreintants et difficiles contre des clubs qui sont, pour la plupart, aspirants aux grands honneurs cette année. Ça fait en sorte que moi, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on dit derrière des portes closes. C'est quoi le plan pour cet été?
Mais ouais, mais avant de parler de cet été, t'as effleuré un point intéressant. T'as dit, l'organisation va nous répondre qu'ils sont pas déçus, mais les partisans le sont. Là, tu as fait référence à tes attentes en début de saison, mais les attentes en cours de route peuvent changer. Tu le sais, tu as assez vu de hockey dans ta vie qu'on ne peut pas se dire « Ah, mais c'est pas grave, ils ont essayé les beaux petits gars, ils ont fini 9e, mais on s'attendait au début de l'année à ce qu'ils finissent 14 ou 15, fait que c'est mieux qu'on pensait. » Ben non, chaque année, avec un goaler de 31 ans puis un capitaine de 33, chaque année où tu passes proche puis tu manques les séries, c'est une année perdue. Et c'est évident pour moi que même si Marc Bergevin puis Jeff Molson ne veulent pas l'avouer, ils vont être amèrement déçus de manquer les séries parce que tu peux pas faire une différence de classe d'équipe rendue en série. Louis, tu le sais, à chaque année, il y a des surprises. On peut pas dire « Ah, mais de toute façon, on serait entré en série puis on n'aurait pas pu rivaliser avec Tampa. » C'est pas vrai. Cette année, il y a eu un match à Tampa qui s'est fini 2-1. Puis il y en aurait peut-être eu un ou deux où Price aurait pu voler le match. Puis l'autre, ben c'est Drouin qui aurait fait 3 buts. Puis on sait pas si après 3 matchs, ça aurait pas été 2-1 pour Montréal. C'est totalement absurde de dire que « Ah, mais nous, de toute façon, on n'est pas rendu. C'est dans 3-4 ans qu'on va être bon. » Ben non. Quand tu peux, tu entres en série. Puis tu t'arranges pour faire le plus long possible en série.
Non, t'as raison. Je veux dire, écoute, là, sincèrement, moi, je regarde cette équipe-là, je me dis, t'as pas de chance. Tu rentres en première ronde. Oui, tout peut arriver, c'est vrai, là, parfait, là, mais regarde, on va y aller vraiment logiquement, là, à fond, Tampa Bay, une équipe qui, non seulement l'équipe qui va gagner le trophée du président, qui sont bourrés de talent et tout ça, oublions tout ce qu'on a vu cette année du Lightning de Tampa Bay, regardons plus ce qui s'est passé l'année passée, puis regardons ce qui s'est passé l'année d'avant ça, et l'année d'avant ça aussi, là, tu sais, regarde depuis la finale en 2015 contre les Blackhawks de Chicago, et tu te rends en finale, tu ne devais peut-être pas être là aussi rapidement. Mais depuis ce moment-là, le Lightning de Tampa Bay, on dit quoi? On dit que cette équipe-là va gagner la Coupe Stanley. Mais ils ont frappé un mur à un moment donné. Ils ont été exclus des séries. Ils ont eu des blessures sérieuses de leur capitaine. Ils ont eu un paquet de choses qui se sont produites. Alors, t'affrontes le Lightning de Tampa Bay demain matin. Moi, je m'excuse. Tampa va gagner. Peu importe ce qu'ils ont fait cette année, ils ont le couteau entre les dents. C'est une équipe qui se dit là, on est rendu au point où il faut trouver une façon de gagner. Peu importe. Je ne sais pas s'ils vont le faire cette année. Mais j'aime leur chance, en tout cas, de se rendre probablement même encore en finale de conférence comme ils l'ont fait l'année passée. Mais tu as raison pour le Canadien de Montréal. Le message, moi, j'ai vraiment hâte de voir quelle sorte de message on va envoyer. On va vouloir, c'est clair, si on devait rater les séries éliminatoires ou on est exclu rapidement. Si on est le scénario parfait pour eux autres, on trouve une façon d'entrer et qu'on perd en 4 ou en 5 ou en 6 ou peu importe, on dit regardez. On bâtit, on s'en va dans la bonne direction. On est passé de l'une des pires équipes à une équipe qui est de retour en série et on va travailler d'arrache-pied pour mettre une équipe encore plus compétitive sur la glace. Ça, c'est la façon facile pour que tu rentres en série. Si tu n'entres pas en série, il va devoir le message qu'on va vouloir transmettre, qu'on va vouloir envoyer aux partisans, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, écoutez, là, maintenant, là, on fait du surplace, que ce soit 9e dans l'Est ou tu as le 3e choix, comme on disait, pour beaucoup de monde, ça change zéro. Et ultimement, c'est là où j'ai vraiment hâte de voir à quel point on va être créatif, à quel point on est prêt à être extrêmement agressif pour aller faire des transactions, pour aller chercher un joueur d'impact ou deux, parce que c'est ça qui marque ultimement quand tu arrives à la fin de la saison comme présentement, Dan.
Oui.
Puis tu es encore en train de te demander c'est quoi ton duo défensif, qui va jouer avec qui, quel attaquant est là, ça te démontre quoi, que tu n'as pas assez de profondeur, que tu n'es simplement pas encore assez compétitif ou tu n'as simplement pas une assez bonne équipe pour rivaliser avec est très, très bonne.
Et pour faire partie, je terminerai avec ça, Louis, mais pour faire partie d'une équipe, d'un groupe d'équipes qui vraiment va être compétitive dans 3 ou 4 ans, il faut que tu donnes du millage. faut que tu donnes du millage en série à tes jeunes joueurs. Kotkaniemi, il sera pas le meilleur joueur des séries dans 4 ans si c'est la première fois de sa vie qu'il participe aux séries, là.
Non, exactement. Puis d'ailleurs, Kotkaniemi, qu'est-ce qui vient d'arriver? Je veux dire, le voyage dans l'Ouest nous a démontré à quel point là, on lui a donné du temps de glace, on lui donne l'avantage numérique et tout ça. Mais là, à un moment donné, tu ne marques pas sa route, tu ne produis pas, tu n'es pas le même joueur à domicile que tu es sur la route. Et c'est ça le problème pour eux autres. Ils se sont dit, maintenant, on essaie de parler à nos joueurs d'imputabilité. On l'a laissé dans le line-up toute l'année, sur la route, et là, il ne produit pas. Alors, tu te fais manquer 2 matchs, tu le ramènes, il ne se passe rien, vraiment, ou à peu près rien pour lui. Et ça démontre, pour moi, le jeu de chaise musicale à ce temps-ci de l'année. Je pense que ça, c'est vraiment un signe pour des organisations qui se cherchent,
oui.
Des organisations qui ont vraiment encore beaucoup de travail à faire.
Exactement.
Sincèrement, là, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait rêver un peu cette année.
C'est ça.
Ils espéreront qu'ils vont trouver une façon de se qualifier.
S'il avait été 12e toute l'année, ce serait quasiment moins pire pour la gestion d'émotions que des fois 6, des fois 7, des fois 8, puis finir 9.
Alors que c'était le contraire, alors que tu étais presque en série toute l'année, une bonne partie en tout cas,
ouais,
tu étais toujours là,
c'est l'inverse.
De façon à même être dans le top 3 de ta division, et là tout d'un coup tu arrives à la fin, à la toute fin là, et là soudainement le monde, au lieu de voir le positivisme et le bon cette année, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de bon, le monde voit quoi? Il dit bon, ben, regarde, on va l'échapper, regarde là, puis là, ça revient à ce que tu mentionnais sur le choix de repêchage et tout ça, ben regarde, voilà. Fait que ça a donné quoi? Tout ça pour rien.
Oui, mais c'est ça le hockey, puis c'est ça la partisanerie des gens au Québec. C'est fantastique, puis il faut pas que les gens changent. Faut que les gens continuent d'être partisans, puis on a créé des attentes avec les victoires avant les fêtes, puis là, les gens vont être déçus. Mais on sait pas encore s'ils vont être déçus. Il y a encore une chance de faire les séries. C'est les 13 prochains matchs qui vont nous le dire. Un gros merci, Louis.
Ça fait plaisir. Je peux te dire une chose pour mon réseau, pour TVA Sport, on souhaite en
faire barouette. Ah oui, ça, il n'y a aucun doute que pour vous, ça serait plus payant parce que vous avez justement le contrat pour les séries, puis jusqu'à maintenant, ça n'a pas été super payant.
Non, c'est ça. Exactement. Écoute, à lundi prochain, Dan.
OK, merci à toi. Bonne soirée. Louis-Jean, animateur à TVA Sport.
Au FM 93. L'avant-match avec Dan Pou.
Nouvelle année, nouveau modèle, bientôt une nouvelle bâtisse. En 2019, tout est nouveau chez Sunfoy Hyundai. L'avenir est à la voiture électrique, on l'a. C'est le Kona, élu meilleur utilitaire de l'année en Amérique du Nord. Oh! Tu cherches un véhicule ultra équipé pour le meilleur prix possible? On l'a! C'est l'Elantra automatique Preferred à 58 $ par semaine. Tu veux payer trop cher, te faire endormir par un vendeur, avoir l'impression d'acheter une voiture comme ça se faisait il y a 20 ans? Dommage, ça, ben, on l'a pas. Sunfoy Hyundai, pense-y, si t'aimes ça, on l'a!
Guérir du surendettement, ça a changé ma vie. Juste d'en parler à quelqu'un, ça fait du bien.
Découvrez l'effet Raymond Chabot. Prenez rendez-vous en ligne ou faites le 1-855-R-CHABOT. Raymond Chabot, conseiller en redressement financier. Les tarifs des syndics autorisés en insolvabilité sont régis par la loi.
Où est-ce que vous allez trouver le plus grand choix de vinyle clic à partir de 1,99 $ le pied carré? À Québec, Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre Bertrand.
Land Rover de Québec.
La bonne affaire de mars, le Range Rover Evoque 2019. Une location de 42 mois, 16 000 km par année, 0 $ de comptant, à partir de 315 $ aux 2 semaines avant taxes. Et la bonne affaire, on paye vos 2 premiers mois de location. Land Rover, tellement plus accessible que vous pensiez. Land Rover de Québec, 225 Étienne Dubreuil.
Land Rover, tellement plus accessible que vous pensiez.
Québec, les remparts, c'est notre équipe. Abonnement de saison 2019-2020 disponible dès maintenant. Gratuit pour les 16 ans et moins. Séries éliminatoires incluses. Les remparts, notre équipe. Nos joueurs. Notre passion. Notre ville. Notre histoire. Notre tradition. Abonnez-vous avant le 15 avril et courez la chance de gagner des vacances pour 2 personnes au Paradisus Princesa del Mar à Cuba. Une gracieuseté Sunwing et Media Cuba. 418-525-1212 ou rempart.ca.
Une seule appli info à télécharger. Parce qu'elle est en temps réel, parce qu'elle vous signale ce qui se déroule dans votre région, parce que l'info y est vérifiée et expliquée. Restez près de l'info d'ici. Téléchargez l'appli info de Radio-Canada.
En semaine dès 18h, Bruno Savard et son équipe sont là pour prendre le pouls de l'actualité et vous aider à mieux comprendre les enjeux de notre région. Avec eux, allez à l'essentiel de l'information. Le Téléjournal Québec, de 18h sur Ici Radio-Canada Télé.
Il y a 20 ans, le premier concessionnaire Kia d'une ville majeure a ouvert ses portes au pays, c'était Kia Québec. Pour vous dire merci, Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair rachète votre bail et offre 1000 $ en bonus célébration sur la compacte de l'année, la toute nouvelle Forte garantie 5 ans 100 000 km.
Dégustez le meilleur de la terre et de la mer à l'Ophélia. Côté mer, l'Ophélia vous offre entre autres le risotto au homard, la morue d'Islande et le crabe des neiges. Côté terre, découvrez une vaste sélection de viande, du contre-filet au tomahawk en passant par le filet mignon. Une belle façon de découvrir l'Ophélia, c'est de profiter du menu midi à prix d'amis. Dans un décor appelant yacht de luxe, embarquez à bord de l'Ophélia. Service de valet gratuit en tout temps. Réservé dès maintenant à l'Ophélia sur Grande Allée.
Pour vendre ou acheter, je vous présente Patricia de Guara.
Vous voulez que votre transaction soit un succès? Faites affaire avec les meilleurs. J'ai la même passion depuis 25 ans et à force d'audace, avec mon équipe, on vend.
Contactez Patricia de Guara. Visitez patriciaetsonéquipe.com.
Rêvez, vous dites? C'est l'événement à faire rêver chez Honda de Giro. Le CR-V 2019 en location 24 mois à partir de 0,99%. Honda de Giro, toujours ouvert le samedi.
Spectacle, festival, événement. Quand ça bouge à Québec, le FM 93 est de la partie.
Préparez votre été au Salon plein air chasse, pêche et camping et le Salon du bateau de Québec. 150 embarcations, 25 experts conférenciers et plus de 240 exposants. Le Salon plein air chasse, pêche et camping et le Salon du bateau de Québec du 14 au 17 mars au Centre de Foire.
Les événements de Québec propulsés par le FM 93. FM 93, ça me parle. L'avant-match. C'est le sport local, provincial, national, international, interplanétaire, sous toutes ses facettes.
C'est tout à fait vrai parce que c'est le sport local dans le prochain segment. On va parler de Mathieu Betts qui a joué une quatrième saison avec le Rouge et Or l'automne dernier. Et ça pourrait devenir du sport plus nord-américain parce que c'est des équipes de la NFL qui sont venues le voir aujourd'hui. Et notre collègue Will Boivin était sur place. Salut Will!
Salut Dan!
Comment vas-tu?
Ça va très bien. Écoute, après une grosse journée comme ça, là, ben, grosse journée, c'est pas moi qui l'ai vécu, cette grosse journée-là. Là.
Je comprends, mais quand même, t'as couvert ce qui s'est passé là-bas. J'ai hâte que tu me racontes ta journée, mais dans quelle mesure ça a été plus éreintant physiquement? Je parle pas de ouais, là, il y avait des projecteurs, puis il y avait plein de monde, puis tout. Ce qu'on a demandé aux joueurs, parce qu'il y a deux joueurs, si j'ai bien compris,
ouais,
qui sont laissés aller devant les recruteurs, Samuel Thomassin et Mathieu Betts. Dans quelle mesure c'était plus tough que ce à quoi tu t'entendais ou tu savais les tests qui allaient passer?
Ben, on savait les tests qu'ils allaient passer. Même les joueurs le savaient. Donc, il y a peu de surprises de ce côté-là.
Okay.
Même les joueurs étaient très bien préparés aux tests qu'ils allaient faire. Là.
Qui décide ça?
C'est la formule normale d'un Pro Day.
OK.
Donc, les recruteurs qui se déplacent dans les prochaines semaines en vue du prochain repêchage de la NFL viennent ici au Canada. Ils étaient à Québec pour Mathieu Betts, Samuel Thomassin aujourd'hui. Alexandre Savard n'a pas pu participer au Pro Day dû à une blessure. Ils vont être demain du côté de Montréal pour voir un joueur des Steniers de Concordia. Donc, okay. Plusieurs recruteurs de la NFL se déplacent dans des Pro Day, donc vraiment sur le site de l'université où le joueur évolue. Et puis, par la suite, on le teste avec différents tests physiques.
Mais toujours les mêmes tests.
Toujours les mêmes tests,
okay,
Dan. Donc, des espèces de drills sur 10-20 verges entre les cônes, le fameux 40 verges où on tente de courir le plus rapidement possible sur une distance de 36-37 mètres, le bench press, le développé couché où on soulève la barre le plus grand nombre de fois qu'on peut et on part la charge à 225 livres. Donc, c'est toujours les mêmes tests.
OK. Ça dure combien de temps une journée comme ça pour l'athlète?
2-3 heures environ.
Okay.
2-3 heures, le temps de s'échauffer, faire les tests, rencontrer quelque peu les recruteurs sur le terrain avant les rencontres privées après les tests. Donc, c'est quand même long. Puis, tu sais, Dan, je suis un ancien joueur de foot. Des fois, quand je regarde un match de football à la télé, j'ai le goût d'être sur le terrain, d'arriver,
ouais,
d'embarquer, faire un sac et une petite danse. Aujourd'hui, il y a aucun temps où j'ai voulu être dans les souliers de Mathieu Betts ou Samuel Thomassin. Sérieusement, ça doit vraiment être stressant de performer comme ça de vent. Bon, aujourd'hui, il y en avait 5 recruteurs. La plupart ont des adjoints avec eux. Donc, ils sont là à te regarder fermement. Ils ont le manteau de l'équipe de la NFL qu'ils représentent. Il n'y a pas de faux départ que tu dois faire. Puis ils épient tous tes faits et gestes. Donc, ça doit vraiment être stressant. Puis dans cette optique-là, dans ces circonstances-là, les deux joueurs du Rouge et Or, entre autres Mathieu Betts, sont très, très bien performés.
OK. As-tu l'impression qu'ils jouaient leur carrière aujourd'hui?
Non. Puis c'est dommage, on met trop d'emphase sur ces fameux tests physiques. Puis je trouve que la NFL, surtout au football, on met beaucoup trop d'emphase là-dessus. Tu peux être bien bon à courir alentour des cônes, mais en situation de match, c'est bien différent.
Okay.
Je trouve au hockey, mettons, par exemple, on laisse plus place à le joueur qu'un hockey IQ. Okay. Tandis qu'au football, on va valoriser vraiment les performances physiques.
Ah, okay.
Exemple, un joueur, John Ross, receveur de passe des Bengals de Cincinnati,
oui,
a été repêché dans le top 10 il y a 2 ans parce qu'il avait brisé le record du temps aux 40 verges. Il avait réalisé le temps le plus rapide de l'histoire aux 40 verges. On s'est dit, waouh, quel receveur de passe, tellement rapide, rapide comme l'éclair. Mais es-tu capable d'attraper un ballon? La réponse, c'est pas vraiment.
Puis il est capable de se déplacer quand il y a une couverture.
Ben, c'est ça. Puis okay. Donc, c'est pas vraiment un bon receveur de passe. On se fie trop là-dessus. Mais dans les circonstances, et même Mathieu Betts le dit dans les extraits que je vais vous présenter, j'aime mieux jouer au football que d'être un sprinteur puis de faire des tests physiques devant les recruteurs. Mais comme il l'a dit, ça fait partie du football. Donc, après ce Pro Day, qui devait être stressant pour les deux joueurs, on a pu discuter, bien sûr, avec Mathieu Betts, son agent Sacha Gavamy, qui a organisé toute cette journée-là, et son entraîneur Glenn Constantin. On va commencer avec le principal intéressé, Mathieu Betts. Selon lui, comment ça s'est passé cette journée-là? Est-ce qu'il a bien paru aux yeux des recruteurs? On l'écoute.
Je suis super content de mes résultats. Je venais ici avec l'idée de réussir les tests, ou plutôt les temps, que je réussissais en préparation durant mes séances d'entraînement. L'important pour moi, c'est de démontrer sur film que je suis capable de bien faire comme joueur de football. L'étape d'aujourd'hui, c'était un peu, je vais pas dire rassurer, mais démontrer que j'ai les capacités athlétiques nécessaires pour évoluer au niveau professionnel au football. Je pense que c'est ça que j'ai démontré aujourd'hui. C'est certain que je sais pas si on peut dire que je me suis amélioré ou j'ai nuit à mon sort. C'est certain qu'à mes yeux, à moi, je suis satisfait de ma performance. Donc.
Satisfait, puis je sais pas, c'est toi qui étais avec lui, Will, mais est-ce qu'il avait l'air d'un gars soulagé?
Oui. Ouais, quelque peu.
Okay.
Ouais, après la journée, c'est bon. C'est passé, là.
Ouais.
Je peux penser à autre chose et me concentrer un peu plus sur les visites qu'il y aura dans les prochaines semaines en vue du repêchage fin avril. Mais oui, j'avais l'impression que c'était du passé, le fameux Pro Day devant les recruteurs de la NFL. Et pour poursuivre un peu la question que tu me posais tantôt, est-ce que il joue sa carrière,
ouais,
en quelque sorte lors,
ouais,
de cette journée-là? Puis c'est pas parce que tu parais mal dans ce genre de journée que tu ne peux pas être pêché ou que tu ne peux pas avoir une deuxième chance. Donc oui, c'est important, puis c'est sûr que c'était stressant comme je vous l'expliquais tantôt, mais en même temps, tu contrôles ce que tu peux contrôler, puis ce que tu peux pas contrôler, ben c'est pas plus grave que ça.
OK, les gens qui nous écoutent puis qui t'entendent parler d'un Pro Day aujourd'hui où Mathieu Betts et Samuel Thomasin ont eu à impressionner les recruteurs. Dans la voiture, actuellement, les gens se disent « Will, rappelle-nous si Anthony Auclair et Laurent Duvernay-Tardy, ça avait été quoi leur processus pour atteindre la NFL? Est-ce qu'eux avaient été repêchés? »
Dans le cas de Laurent Duvernay-Tardif, il avait trouvé preneur en 6e ronde avec les Chiefs de Kansas City.
Okay.
Anthony Auclair n'a pas été repêché. Donc, il réussit tout de même à avoir une belle carrière dans la NFL, a de plus en plus de temps de jeu. Ses entraîneurs chez les Bucks l'adorent.
Okay.
Alors, c'est pas une finalité non plus, okay, si Betts n'est pas repêché à la fin avril.
Okay.
Puis Sacha Gavamy va très bien nous l'expliquer plus tard. D'ailleurs, Dan, il y avait 5 équipes aujourd'hui pour épier Betts. C'est quoi l'intérêt des équipes la NFL pour Mathieu Betts, l'excellent numéro 9 du Rouge et Or? On sait qu'il a participé également au East Shrine Game qui regroupe quelques bons espoirs en vue,
oui,
du prochain repêchage. Il a participé à ce match au début du mois de janvier, puis il a vraiment bien fait, puis il y a beaucoup d'intérêt autour de lui par les clubs de la NFL. On l'écoute.
C'est certain que les équipes qui étaient présentes aujourd'hui, ça démontre une certaine forme d'intérêt niveau repêchage ou signé par la suite comme agent libre. On est encore tout dans le processus pour indiquer si une de ces équipes-là, d'autres équipes-là ou d'autres équipes se manifestent. Mais c'est évident que les équipes qui ont démontré de l'intérêt à venir aujourd'hui, c'est certain que c'est une base, mais en soi, ça veut pas dire non plus que ça va être une de ces équipes-là ou une autre qui n'était pas nécessairement là aujourd'hui.
Puis, pour continuer également ta réponse, Dan, les Chiefs avaient été voir Laurent Duvernay-Tardif lors d'un Pro Day, lors de son année de repêchage. Donc, ils étaient présents à son Pro Day.
Okay.
Même chose pour les Buccaneers de Tampa Bay avec Anthony Auclair. Ils étaient présents ici lors de son Pro Day en 2017. Il y avait 17 équipes présentes. Les Bucks y étaient. Donc, est-ce qu'on peut déduire qu'une des cinq équipes présentes aujourd'hui, ouais, ben, sont assurément intéressées à Mathieu Betts? Ce ne serait pas déplacé ou sinon.
Exact.
Mais est-ce que c'est assurément une de ces cinq équipes-là qui vont le repêcher ou le signer? Pas nécessairement, okay, mais okay, c'est sûr que ces équipes-là ont de l'intérêt pour lui.
Okay.
Hey, comme gars de 23 ans qui joue au football depuis le début de son secondaire, il est-tu en train de réaliser justement qu'il y a des équipes de la prestigieuse NFL qui s'intéressent à lui, puis qui est dans un processus peut-être d'atteindre la NFL et de jouer avec ses idoles dès la saison prochaine? On a demandé à Mathieu Betts ce qu'il en pense.
C'est certain que jeune moi regarderait ça, puis il triperait, puis honnêtement, je suis super fier de ce qui m'arrive en ce moment. C'est le résultat du travail de beaucoup, beaucoup de personnes, en passant par mes parents, mon entourage, tous les milieux sportifs dans lesquels j'ai passé. Mais là, c'est devenu ma réalité un petit peu. Donc, quand tu baignes dedans, c'est un petit peu différent quand tu le regardes de l'extérieur. C'est sûr que c'est excitant comme processus, mais jusqu'à un certain point, c'est là-dedans que je suis en ce moment. Donc, je peux pas voir ça trop gros non plus. Ça reste du football, que ce soit au niveau professionnel, amateur. Je pense pas qu'il faut s'en mettre trop sur les épaules. Je pense pas que c'est rien de positif si on fait ça.
Il y a une bonne façon de voir ça, parce si il s'ajoute une pression, puis il se dit, hey, là, c'est stressant, tabarouette, ils sont venus me voir jouer, ben il pourra pas performer un jour.
Ben non, c'est clair. Puis, y a-tu les deux pieds encore sur terre, Mathieu Betts?
Oui, oui.
Ça paraît. C'est un gars très humble, ça paraît. C'est Sacha Gavamy qui a organisé cette journée-là. C'est l'agent de Laurent Duvernay-Tardif, oui, de tous les joueurs québécois de football, là, quasiment, oui, on va se le, oui, dire. C'est lui qui a mis en place, je te l'ai dit tantôt, Dan, il y avait 17 équipes présentes ici à Laval pour le Pro Day, Anthony Auclair. Est-ce qu'il faut déduire rapidement qu'il y avait plus d'intérêt, mm-hmm, pour, oui, les équipes de la NFL pour, bon, Anthony Auclair?
Bonne
est-ce
question,
que moins, oui, d'intérêt, oui, un peu pour, oui, Mathieu Betts selon le nombre d'équipes qui étaient présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, on écoute Sacha Gavamy, son agent là-dessus.
Je pense que c'est différent parce que, premièrement, on n'était pas d'en avoir plus, mais à cause de la météo, il y en avait moins. Il y a des vols qui ont été annulés, mais même avec ça, il faut comprendre que ce n'est pas les mêmes styles de joueurs. Anthony, ce qu'il apporte à une équipe est assez rare à trouver au niveau de la NFL, c'est-à-dire des ailiers rapprochés qui sont un gabarit comme Anthony, qui sont capables de bouger, bloquer aussi bien qu'il le fait. Mathieu, c'est une position qui est extrêmement sollicitée aux États-Unis, mais qui a beaucoup, beaucoup de joueurs qui veulent offrir cette position-là, qui ont, tu sais, un gabarit comme Mathieu, 6 pieds 2,5, 2,54, 2,55. C'est pas un gabarit inusité. Tu sais, on le voit quand même. Ça reste un athlète qui est très bon, mais c'est pas un athlète qui, on dit, oh mon Dieu, c'est du jamais vu. Donc, c'est un travail différent. Il faut réussir à montrer aux équipes qu'entre deux gars de la même position, peu importe américain, des deux, et Mathieu a le meilleur choix. Donc, c'est un travail qui est un peu plus important à faire. C'est un travail qui est un peu plus corsé, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a moins d'équipes aujourd'hui, qu'il y a moins d'intérêt pour lui. C'est juste que l'intérêt est différent aujourd'hui.
OK, c'est bien expliqué. Will, toi qui connais le football mille fois plus que moi, je me souviens dans l'entretien que j'ai fait avec Glenn juste avant le Super Bowl, il m'avait mentionné que si Mathieu Betts vient qu'à arriver à la NFL un jour, peut-être qu'il devra changer de position. Quelle autre position Mathieu Betts pourrait occuper dans la NFL?
Ben, c'est un peu la même position. C'est un peu l'appellation. Et dans la NFL, on utilise beaucoup de schémas défensifs différents.
Okay.
Des fois, on utilise quatre joueurs de ligne défensive qui sont vraiment appuyés sur le sol en trois points d'appui. Et des fois, on peut utiliser trois joueurs de ligne défensive et quatre secondaires. Je ne veux pas rentrer trop dans le concret du football.
Okay.
Mais il pourrait davantage être un chasseur de corps sur le coin de la ligne plutôt, okay, qu'un joueur de ligne défensive pour stopper l'attaque au sol.
Je comprends.
C'est un peu plus pour ça.
OK, parfait.
Et tu sais, Dan, dans l'explication, c'est vrai que des bébêtes athlétiques comme Anthony Auclair, il,
oui,
n'y en a pas beaucoup.
Non.
Et les équipes en recherche. Des gars comme Mathieu Betts, c'est vrai qu'il y en a beaucoup.
Il dit là, il dit 6,5 puis 255. Il dit rien d'anormal là. C'est comme si.
Aussi rapide que Mathieu Betts, pas tout le monde.
Ouais, mais c'est
contre,
ça. Là.
Là, mais, non, quand même. Puis okay, il y a une tête de football, Mathieu Betts. Mais également, tu sais, des Patrice Bergeron, toutes,
oui,
les équipes de la Ligue nationale d'hockey en cherchant un centre complet qui est bon offensivement, défensivement, mais il n'y en a pas partout. Là. Tu ne trouves pas ça dans une boîte de Cracker Jack là, non
plus. Non, puis sa shape à l'époque, si on parle juste, ouais, shape pour shape, hockey, football, n'était pas si exceptionnel à Patrice Bergeron.
Ben non, exactement.
Mais il fait tout bien sur la,
ouais,
patinoire.
Exact.
Ça a quand même été un choix de deuxième round, pas un premier au total.
En plus de ça.
OK.
C'est un repêchage qui est très garni, par contre, dans la position d'ailier défensif, de joueur de ligne défensive. Puis comme Sacha nous l'a expliqué, c'est pas un gabarit ou un joueur qui ressort plus qu'un autre quand on regarde ses tests physiques. Donc, est-ce que ça peut nuire aux chances de Mathieu Betts d'être repêché? On écoute Sacha.
Une équipe comme en amour avec lui peut le repêcher quand même. T'sais, l'année d'Anthony, je sais que les Bucks avaient tombé en amour avec lui. Puis, tu sais, les rumeurs voulaient que si O.J. Howard n'était pas disponible pour les Bucks en première ronde, Anthony aurait peut-être été repêché avant. T'sais, on sait pas. ça prend une équipe qui va vraiment l'aimer, puis que le staff au complet va dire, hey, lui, on l'aime. Mais encore, chaque équipe a plusieurs besoins. Il y a juste 7 rondes dans le repêchage NFL. Pour moi, l'objectif n'est pas d'être repêché. L'objectif, c'est d'arriver après 3 ans, j'ai fait ma marque dans cette ligue-là. Fait que, peu importe ce qui arrive, la dernière fin de semaine du mois d'avril, moi, tant que Mathieu il se retrouve dans une bonne équipe et dans une bonne situation, même chose pour tous mes gars, je vais être satisfait.
Yeah, comme je t'ai dit tantôt, Dan, Laurent a été repêché en 6e ronde. Anthony Auclair n'a pas été repêché. Tu sais, puis comme agent pour Sacha Agavami et son client, est-ce qu'il préfère, lui, se faire repêcher en 7e ronde et la dernière ronde du repêchage par une équipe qui n'est pas trop intéressée, non, mais qui avait un besoin à cette position-là, ou un club qui est vraiment intéressé à te signer, qui est vraiment intéressé à te faire une place sur son 53 de partant? On écoute Sacha Agavami.
Toujours une équipe intéressée. T'sais, j'ose croire que si on le repêche, peu importe la ronde, c'est que l'équipe est intéressée. Mais dans la situation hypothétique, il y aurait un plus ou moins d'intérêt versus une équipe qui est prête à le signer après le repêchage avec beaucoup d'intérêt. C'est clair que j'opte pour la deuxième option.
C'est intéressant, Will, ce qu'il dit, Sacha. C'est un peu comme au hockey de la LNH où il y a 7 rondes. À partir du moment où tu repêches un joueur, tu peux pas prendre une chance. Nous, dans nos poules de hockey, en 12e ronde, on prend des chances. Il faut dire, oh, je prends une chance. On entend ça dans les poules. Hein? Mais eux autres, dans le vrai repêchage, ils prennent pas de chance.
Exact.
Ils connaissent le jeune, ben ils l'ont épié, puis ils disent, au pire, ce sera un projet, puis ça va être un peu plus long. Mais si on le repêche, on a de l'intérêt. C'est ce qu'il vient de dire, Sacha, dans le dernier extrait, puis je trouve ça intéressant.
Imagine-toi, il y a 53 joueurs dans une équipe de football, il y a seulement 7 rondes au repêchage. Faut que tu sois bon en jouant le vert pour être repêché dans la NFL, sérieusement. On termine le dernier extrait avec Glenn Constantin, entraîneur-chef du Rouge et Or. Dan, quand tu t'es assis avec Glenn Constantin pour discuter avec lui du Super Bowl, je pense que tu t'es rendu compte à quel point il connaît son football, hein, Glenn Constantin?
Ça n'a pas de bon sens.
J'ai demandé à Glenn, est-ce qu'une journée comme celle-là, on peut gagner une place au repêchage ou plutôt perdre notre place au repêchage? On écoute Glenn Constantin.
Mais je pense que les deux sont vrais. Je pense que, écoute, chaque fois que tu te mets en performance, tu te mets à risque de bon ou de l'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'on leur a dit comme test, il a vraiment prouvé qu'est-ce qu'il pouvait faire, même excéder certaines choses. Je pense qu'il a amélioré son sort. Le repêchage, c'est une science en soi. C'est vraiment imprécise. Moi, mon seul affaire, je peux dire que des fois, c'est mieux d'être agent libre et puis choisir ton équipe que de dicter une équipe qui croit plus ou moins tes chances ou quoi que ce soit. Donc, c'est mieux de... c'est vrai que pour le prestige, j'étais en train de dire que j'ai été repêché. Mais si tu regardes l'exemple comme Anthony Auclair, il a choisi la bonne équipe. Et écoute, on sait que c'est pas un choix de première ronde. C'est un gars qui serait dans le bas du repêchage, c'est une porte d'entrée. Peu importe, puis je pense que le plus de temps que tu vois ce gars-là, plus que je pense qu'il va ouvrir les yeux.
C'est intéressant. Les gens vont s'intéresser à lui, puis ils vont se mettre à le connaître. Puis c'est une porte d'entrée à la NFL, le repêchage, ben oui, ou même la journée d'aujourd'hui.
Puis repêchage ou pas, je pense que Mathieu Betts va évoluer dans la NFL la saison prochaine.
OK.
Puis il va signer au pire comme agent libre suite au repêchage, comme l'a fait Anthony Auclair.
Okay.
Mais repêchage ou pas, c'est pas si grave que ça s'il n'est pas repêché. Mais Mathieu Betts, à mon humble avis, va évoluer dans la NFL la saison prochaine.
Intéressant. Un gros merci, Will.
Avant chaque match, à Québec, on écoute Dan Pou. Au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
L'avant-match est présenté par Pièces d'auto économiques. Les mêmes grandes marques qu'ailleurs, mais toujours moins chères. Pièces d'auto économique, 4 magasins dans la région et une boutique en ligne à pièceséconomique.com.
Ici PA Méthode pour Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan. Êtes-vous du genre que ça vous prend vraiment une bonne occasion pour changer d'auto? Écoutez bien l'annonce, ça se pourrait que ça fasse votre journée.
Durant les offres Mon Choix chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan, obtenez 1 500 $ de rabais sur le Rogue 2019, maintenant offert à seulement 69 $ par semaine en location sur 24 mois avec un compte de 2 995 $. Ce printemps, Mon Choix, c'est Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan.
On est avec Michel Lefebvre de chez PC en vrac. Michel, quand on a un bris sur notre cellulaire, on sait pas trop quoi faire, on a l'impression qu'on peut rien faire ou que ça va coûter une fortune. Alors, vous venez nous régler ce problème-là.
Ben oui, chez PC en vrac, ça fait déjà 3 ans qu'on répare les cellulaires et les tablettes. C'est surprenant tout ce qu'on peut réparer. L'écran, évidemment, mais aussi la caméra, le micro, les haut-parleurs, la fameuse prise écouteur. On peut aussi remplacer la batterie, on récupère les photos et on déverrouille vos appareils gratuitement.
Wow, c'est impressionnant! Et vous réparez toutes les marques?
Toutes les marques Apple, Android. On n'utilise seulement que les pièces d'origine lorsque c'est disponible. Puis on ne vous fait pas attendre en plus parce qu'on sait que le temps, c'est de l'argent. Donc, en dedans d'une heure, normalement, c'est réparé.
Et j'entendais qu'on peut vous rapporter nos vieux cellulaires qu'on ne sert plus.
Bien sûr, on vous donne un crédit en magasin et on donne une deuxième vie à votre cellulaire.
Merci, Michel!
Ça fait plaisir.
Alors, PC en vrac, vos réparations à prix imbattable à Saint-Nicolas, Sainte-Foy et Charlevoix.
Pis boss, hey, je me demandais, tu nous as-tu inscrit au REER Plus à même la paye au Fonds de solidarité FTQ?
Oui, oui, je vais le faire. Mais là, c'est ma tournée de café. Hein? Un lait, deux sucres pour Sylvie.
C'était un sucre, deux laits.
Un café au lait pour Jean-Christophe.
C'est du lait de soya, hein?
Et un, deux crèmes pour Marie-Ève.
Si c'est pas du café équitable, j'en bois pas.
Faire le bonheur de vos employés, c'est plus simple qu'une tournée de café. Offrez-leur un plus. Grâce au REER Plus, au Fonds de solidarité FTQ et ses économies d'impôts à chaque paye. La valeur des actions fluctue. Veuillez lire le prospectus. Visitez fondsftq.com, section employeur pour les détails.
Vous songez à la proposition ou à une faillite pour régler vos problèmes financiers? Mallette Syndic autorisé en insolvabilité. Rencontrez sans frais l'un de nos experts en prenant rendez-vous à llTT.ca. Mallette, avec vous, là où ça compte.
Chez Quesada, tous vos plats préférés sont maintenant offerts avec le Beyond Meat, le fameux substitut de viande 100% végétalien. C'est servi avec une mayo végane au paprika fumé. Quesada, les joies du Metz, 575 Boulevard Amel et Avenue Saint-David à Beauport.
Avec un trio Ford aussi brillant.
Petit format, compétence énorme, le VUS EcoSport SE 2018. 4 roues motrices se louent 7 semaines à seulement 155 $ aux 2 semaines en location de 48 mois. 155 $ aux 2 semaines. Zéro comptant requis, détail de cette offre sur place. Desjardins Auto Collection, Sainte-Foy Ford ou l'Ange Gardien Ford.
C'est facile d'embarquer avec Ford.
Des maladies peuvent survenir à la suite de commotions cérébrales, dont le Parkinson, l'Alzheimer et la SLA. Pour les prévenir, la Fondation du CHU de Québec lance un projet rassembleur qui supporte une recherche innovante sur les commotions cérébrales. François Drolette, Simon Gagné, Guillaume Rioux, Charles Fortier, Michel Laplante et Louis Garneau se joignent à la Fondation pour ce projet. Supportez une de ses vedettes sportives et courez la chance de gagner un moment privilégié en sa compagnie et 5000 $ offerts par Voyage Arabais. Info sur projetsportif.org.
Non, mais trouvez-vous que les électros, c'est un peu comme nos vêtements? Quand la cuisinière se marie avec le lave-vaisselle et le frigo, c'est tellement plus beau. Chez Corbeil, c'est justement le bon temps d'agencer vos électroménagers. Car dans le cadre de la campagne 1000 merci, 1000 cadeaux, plus vous achetez, plus vous épargnez. À l'achat de deux appareils, on réduit votre facture de 150 $ et à l'achat de trois, c'est 300 $ de moins pour vous.
Le spécialiste l'électroménager, c'est Corbeil.
Du 11 mars au 1er avril, certaines conditions s'appliquent. Détails en magasin ou sur corbeilelectro.com.
La bonne affaire de mars, le Range Rover Evoque 2019. Une location de 42 mois, 16 000 km par année, 0 $ de comptant, à partir de 315 $ aux 2 semaines avant taxe. Et la bonne affaire, on paye vos 2 premiers mois de location. Land Rover, tellement plus accessible que vous pensiez. Land Rover de Québec, 225 Étienne Dubreuil.
Land Rover, tellement plus accessible que vous pensiez.
Vous êtes âgé de 50 ans ou plus? Vous êtes presbyte ou avez des cataractes? La chirurgie par lentille intraoculaire, offerte à l'Institut privé de chirurgie, est la solution. Inscrivez-vous à notre prochaine soirée d'information gratuite le 27 mars. Institutprivédechirurgie.com.
Portes et fenêtres élites. Le froid de l'hiver, la chaleur de l'été, nos experts maîtrisent. Depuis plus de 40 ans. Fenêtreélite.com.
L'avant-match est présenté par Pièces d'auto économique. Les mêmes grandes marques qu'ailleurs, mais toujours moins chères. Pièces d'auto économique, 4 magasins dans la région et une boutique en ligne à pièceséconomique.com.
Le sport commence par l'avant-match avec Dan Pou en semaine 18h. FM 93.
Je me suis bien senti dès les premiers points. Je pense que l'atmosphère était vraiment incroyable. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens. De jouer un premier top 10, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je pense que d'entrée, j'étais capable de m'imposer. Ça a été vraiment un très bon match complet aujourd'hui.
Ça, c'est Félix Auger-Aliassime qu'on vient d'entendre, qui s'est payé le 10e joueur mondial, le grec Stefanos Tsitsipas, en fin de semaine à Indian Wells en Californie. Deux manches de 6-4 et 6-2. On va en jaser à l'instant avec l'entraîneur de tennis au Club Avantage, qui connaît très bien Félix Auger-Aliassime, Christian Gingras, qu'on joint au téléphone. Salut, Christian.
Salut, Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Oui. Quand tu as appris que Félix avait gagné en fin de semaine, est-ce que ta première réaction, ça a été de dire « Ben, voyons donc ».
Ben, je pense qu'à chaque fois qu'il joue en ce moment, il nous surprend de match en match. Là. Mais sa victoire contre Tsitsipas, écoute, on, en tout cas, moi de mon côté, sans dire que je l'avais prévu, il l'a quand même battu 3 fois dans la dernière année.
Okay.
En fait, à sa dernière année junior.
Okay.
À sa dernière année junior, Félix, quand il a gagné le US Open junior et tout ça, cette année-là, il avait battu Tsitsipas trois fois. Donc, les trois dernières fois qu'il s'était joué, il l'avait battu. Donc, de ce côté-là, Félix embarquait quand même sur le terrain avec probablement une grosse confiance, même s'il jouait un joueur du top 10 mondial.
Je comprends. Mais c'est pour ça qu'il faut que je fasse appel le plus souvent possible à des spécialistes dans mon émission, parce que, regarde, je savais pas cette info-là, puis toi, tu nous l'apprends ce soir. Un gros merci. Dis-moi, est-ce que je comprends, Christian, que Félix Auger-Aliassime, dans son ascension des, je vais dire, dernières semaines, derniers mois, là, même si pour toi, ça fait depuis quelques années qu'il progresse, mais est-ce que je comprends que lui joue très bien, mais c'est pas parce que les autres jouent mal. Les autres jouent bien, mais lui a augmenté son niveau puis il réussit à les battre?
Oui, définitivement. Félix, il a un style de jeu qui est extrêmement offensif. Okay. Quand tu le vois jouer, là, c'est pas le genre de joueur qui va rester au fond du terrain et qui va attendre de se faire dicter ou de se faire imposer le jeu.
Comme moi, mettons.
Effectivement. Il aime bien prendre l'avantage du jeu. Il aime bien contrôler le point. Donc, et ce qu'il fait de mieux en mieux, c'est qu'il réussit toujours à faire ça, mais de plus en plus, il réduit les erreurs et il réduit les mauvaises périodes de match. À un moment donné, quand tu joues très offensif, là, tu peux t'attendre à l'occasion où que tu vas avoir une petite baisse. Et cette petite baisse-là, dépendamment du niveau à lequel tu es rendu, peut être plus ou moins longue. Puis dans le cas de Félix, de plus en plus, il est capable de soutenir son jeu du début à la fin des matchs. Et c'est pour ça qu'il devient un adversaire excessivement coriace pour à peu près n'importe qui.
OK. Toi qui le connais bien, qu'est-ce que tu as trouvé qui a amélioré le plus dans la dernière année et demie? Son jeu, ses habiletés sur le terrain ou son mental?
Bon, je te dirais que c'est... En fait, c'est l'ensemble de l'œuvre.
Okay.
Son jeu est plus stable qu'il était. Son coup droit, là, écoute, l'autre soir, on le regardait jouer, puis il a frappé à un moment donné une droite en croisée qui a frappé un coup gagnant où l'adversaire n'a même pas bougé. Puis là, tu sais, on parle d'un gars qui est top 10 mondial, là, le gars n'a même pas eu le temps de réagir. Son coup droit, il est excessivement puissant. Puis comme je te disais tout à l'heure, il aime bien dicter le jeu. Donc, s'il réussit à réduire un peu ses fautes, il devient, en fait, il gère un peu son propre match. C'est lui qui devient en contrôle de la situation presque tout le temps.
OK.
Et du côté mental, oui. Ben, il a toujours été réputé pour être assez solide. Donc, de ce côté-là, tu sais, on le voit qu'il est très compétitif, il est très concentré, et ce côté-là, il est réellement quelque chose qui va l'amener encore plus haut, là.
Quand il avait 13-14 ans et il jouait au tennis au Club Avantage, est-ce que c'était évident pour toi qu'il allait performer à 18 ans sur la scène internationale?
Ben, écoute, ça s'est pas fait beaucoup au Canada. Hein?
Non, exact.
On a eu Chapovalov qui a quand même performé, qui a percé à 18 ans. Là, Félix est en train de faire la même chose. Et tous les experts du sport depuis plusieurs années ne prédisent que des bonnes choses pour Félix, compte tenu, comme je te disais, de la façon qu'il joue et de la façon qu'il se comporte sur le terrain. Et en même temps, il a un excellent physique. Tu sais, c'est quand même pas un petit gars, là, même s'il a 18 ans, il mesure 6 pieds 3, 6 pieds 4. Il est assez costaud, il est super rapide. Fait que c'est toutes des qualités qui font que l'avenir va être très beau pour lui.
Est-ce que je comprends qu'en battant le 10e mondial à Indian Wells, le tableau s'ouvre pour lui? Là, aujourd'hui, il va affronter le Japonais Nishioka. Est-ce qu'en éliminant un des favoris, sans dire que ça va être plus facile, c'est pas ça que je veux dire, là, mais est-ce que ça s'ouvre?
Ben, définitivement, ce qui est en train de se produire dans le cas du tableau de Félix en ce moment, bon, il joue Nishioka. Nishioka n'est pas un client facile puisque... Bon, il a déjà battu Félix. Mais il a déjà battu Félix quand Félix avait 14 ans.
OK.
Donc, Félix va probablement déjà le connaître un peu. Par contre, du côté de son tableau, si on regarde ce qu'il y a autour de lui, il va rencontrer Sifuné Bonishioka, qui devrait probablement le battre s'il joue aussi bien que jouer contre Tsitsipas.
Oui.
Là, après ça, il va gagner le gagnant. Il va jouer le gagnant de deux sets. Gérard, contre qui il a perdu il y a les deux derniers matchs là, à São Paulo et à Rio de Janeiro, qui présentement est en train de se faire battre par Petmanovic,
okay.
qui est un autre jeune, que Félix a battu deux fois dans la dernière année et demie environ.
OK.
Fait que quand même, si les planètes semblent alignées en ce moment, puis si tout continue comme ça va présentement, il va peut-être nous causer une surprise incroyable, puis peut-être se rendre pratiquement jusqu'à Milan Slanic.
Parfait, on va suivre ça.
Bon, là, qui sait?
Ben oui, exact. Là, ça va être juste du boni, du gratin sur la performance. Un gros merci, Christian. Bonne soirée à toi.
Merci, bonne soirée.
C'est tout pour l'avant-match de ce soir. C'était Christian Gingras, entraîneur de tennis au Club Avantage, qui nous parlait de Félix Auger-Aliassime. Il y a un match ce soir qui implique Félix Auger-Aliassime au Japonais. C'est 18h50, heure de la Californie. Donc, 21h50 pour nous, pour le match de Félix Auger-Aliassime. Je veux saluer Philippe Marquis, qui a annoncé sa retraite en fin de semaine, et le doyen de la LHGMQ, l'arbitre Éric Charron, qui a fait plus de 1400 matchs dans la LHGMQ. Et au niveau de la Ligue nationale, le meilleur match de la soirée est à Toronto, où le Lightning affronte les Leafs. Pour la course aux séries impliquant le Canadien, sachez que les deux matchs les plus importants sont à Long Island, où les Blue Jackets vont affronter les Islanders, et au Colorado, à Denver, où l'Avalanche affrontera les Hurricanes. C'est tout pour ce soir. Je vous dis bonsoir. Merci.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93. Ça me parle.
L'avant-match est présenté par Pièces d'auto et